tout juste l'heure de retrouver Norbert Navarro pour la revue de la presse. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Avec cette question à la une de la presse hebdomadaire, Christophe Castaner va-t-il rester ministre ?
Étant rappelé que, sans surprise hier, l'intéressé a été désigné délégué général de La République En Marche, le mouvement politique d'Emmanuel Macron, Le Parisien dimanche, en toute logique, la pose, cette question, partira pas. Hier soir, en haut lieu, la question n'était pas encore tranchée, répond le journal du dimanche. Cet hebdomadaire prévient qu'un ajustement du gouvernement sera annoncé lundi après-midi, c'est demain. Un ajustement du gouvernement, bien sûr, et le JDD avance deux hypothèses. Un, Christophe Castaner resterait ministre mais ne serait plus porte-parole du dit gouvernement. Il serait remplacé à ce poste soit par Benjamin Griveaux, soit par Julien Denormandie. Deuxième hypothèse, Christophe Castaner quitterait le gouvernement. Suspense insoutenable.
On entend votre ironie, Norbert. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle tempête dans un verre d'eau ?
Ben, tout simplement parce qu'avant même la désignation de Christophe Castaner comme patron d'En Marche, une cofondatrice de ce mouvement a cette semaine mis les pieds dans le plat. Astrid Panossian, c'est son nom, fut membre de la direction collégiale d'En Marche. Dans un entretien à l'hebdomadaire L'Obs, Astrid Panossian dit qu'il lui semble évident que le délégué général, notamment chargé d'exprimer la parole des adhérents d'En Marche, ne peut pas être en même temps porte-parole du gouvernement, voire ministre des Relations avec le Parlement. Le cumul de ces deux fonctions pose un problème, martèle Astrid Panossian dans L'Obs. Qu'en dit l'intéressé ? Interrogé hier soir à la télévision, Christophe Castaner s'est bien gardé de trancher la question et il n'en dit pas davantage ce matin dans l'entretien qu'il a accordé au JDD, se bornant juste à promettre qu'il ne serait pas un barde qui chanterait les louanges du gouvernement. Comme on dirait en Afrique, pas de griot à En Marche.
Autre spéculation au sein du gouvernement cette semaine, Norbert, celle relative au devenir de Nicolas Hulot.
Coup de sang du très populaire ministre de la Transition écologique et solidaire dans le journal Le Point. « Ça ne peut pas se passer comme ça », se réécrit Nicolas Hulot. « Ça ne peut plus continuer comme ça ». Nouveaux états d'âme, un sentiment d'isolement plutôt et le manque de temps pour prendre des décisions. Je passe mon temps à dire « mais laissez-moi donc réfléchir un peu », dit-il dans l'hebdomadaire.
Ce n'est pas la première fois que la question se pose sur les doutes de Nicolas Hulot. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci, Norbert ?
Eh bien, selon Le Point, Nicolas Hulot, le 6 novembre, aurait été pressé d'annoncer publiquement que l'objectif d'atteindre 50% d'électricité d'origine nucléaire en 2025 en France était inenvisageable. Pressé par qui ? Rien moins que par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et par le Premier ministre Édouard Philippe. Pourquoi cette pression ? Parce que dans un communiqué qui devait être publié le lendemain, l'opérateur réseau de transport d'électricité allait écrire que cet objectif cher à Nicolas Hulot était inatteignable. Alors, selon un proche du ministre, un argument choc avancé par Bruno Le Maire était « si Nicolas Hulot s'y refusait, alors le gouvernement annoncerait le lancement de nouvelles centrales nucléaires en France ». Info ou intox ? La conseillère en communication de Nicolas Hulot a démenti ce récit du journal Le Point. Pourtant, le lendemain, le 7 novembre, à l'issue du Conseil des ministres, Nicolas Hulot a estimé irréaliste l'objectif de réduction à court terme de la part du nucléaire dans la production électrique en France. C'est ce qui s'appelle avaler une nouvelle couleuvre et c'est ce qui amène une fois encore la presse à spéculer non pas sur les vacances de Monsieur Hulot, mais sur le risque de vacances au pouvoir de Nicolas Hulot.
Elles étaient attendues, les voilà publiées. Les confessions de Nelson Mandela contenues dans un livre posthume qui éclaire d'un jour nouveau la carrière de Madiba.
Et en France, c'est l'hebdomadaire L'Express qui en publie quelques bonnes feuilles. Ce journal à la une duquel s'illumine le sourire de Nelson Mandela présente cet ouvrage intitulé « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes » comme un livre événement. Extrait. L'un des moments les plus mémorables et éprouvants pour Mandela se produisit quelques semaines après sa libération au cours d'une période d'affrontement intense dans le Natal quand il s'adressera à une foule de plus de 100 000 personnes au King's Park Stadium de Durban. « Prenez vos armes à feu, vos couteaux et vos pangas » et « jetez-les à la mer », implora Mandela. Un grondement de sourd réprobation monta de la foule pour se changer en un crescendo de huées. Stoïquement, Mandela continua. Il avait un message à délivrer. Fermez les usines de la mort, mettez immédiatement fin à cette guerre. Ou encore cet autre passage relatif à la réconciliation nationale. Sachant qu'il avait hérité d'une machine d'État faillible et inefficace, Mandela se devait d'éviter les écueils qui gangrenaient les pays nouvellement indépendants quand leur administration coloniale ouvrait la porte au mouvement de libération. Les colons, ou l'ancienne administration de l'apartheid et ses partisans, étaient des Sud-Africains et non l'avant-poste d'un pouvoir colonisateur étranger. Les colons étaient installés, ils étaient chez eux en Afrique du Sud. Le livre de Nelson Mandela est édité chez Plon.
De la littérature encore, avec le prix Goncourt et le prix Renaudot, qui cette année sont des romans historiques, mais où est passée la fiction pure, Norbert ?
Étant rappelé que le Goncourt et le Renaudot plongent dans l'histoire du nazisme, c'est la question que pose l'écrivain Frédéric Becbédé dans le Figaro magazine. Le roman réaliste est en train de mourir sous nos yeux. À chaque rentrée, on le voit enterré plus profondément sous la pelletée des histoires vraies. Il s'agit de la plus vaste opéa de la réalité sur la fiction de toute l'histoire du roman. Jamais avant le cru des prix de 2017, la France n'aura entériné aussi clairement la défaite de l'imagination. Se navre Frédéric Becbédé, quelle histoire !